Bonjour à toutes et à tous. Voilà, il est 30 dans quelques secondes, donc je me permets de prendre la parole pour introduire ce nouveau café débat. Merci à vous tous de venir toujours aussi nombreux. Hein. Désolé de ne pas pouvoir proposer des places assises à tout le monde, mais vous voyez qu'on est contraint par nos murs. Il s'agit du dernier café de la saison, hein, je vous rassure, hein, la programmation de l'année prochaine est déjà toute prête, hein, et elle va être aussi riche que celle-ci. Elle redémarrera au mois d'octobre avec la fête de la science. Et nous sommes aussi à quelques semaines de la fête de la musique, et nous voulions marquer le coup en nous intéressant à la musique sur notre santé physique et mentale. Et après tout, ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs? Alors, pour être plus sérieux, l'idée d'aujourd'hui, c'était d'explorer notre cerveau et de comprendre pourquoi la musique agit aussi puissamment sur notre esprit et sur notre corps. Nous voulons nous intéresser aux mécanismes qui sont à l'œuvre. Et est-ce que la musique peut réellement devenir une alliée pour notre santé? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Sophie Donadieu. Vous êtes maîtresse de conférence au laboratoire de psychologie de neurocognition, le LPNC, de l'Université de Savoie. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe des entre-midi et sciences, nous avons une heure ensemble, c'est très court. Et la première demi-heure est consacrée à votre présentation. Vous allez vous poser le cadre. Donc, ce n'est pas la peine de l'interrompre, hein, puisque la deuxième demi-heure est consacrée justement aux questions, aux échanges et aux débats. Voilà, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole.
Merci à vous, merci pour votre invitation, merci pour... vous êtes très nombreux, donc merci pour votre présence. Donc juste pour compléter sur le travail donc de recherche, hein, mes thématiques de recherche, c'est essentiellement les liens cerveau-musique et plus récemment santé physique et mentale. Alors, avant de commencer, je voudrais vous poser deux, trois petites questions. Alors la première, très très simple, qui a écouté de la musique aujourd'hui? Bon, ça c'est chouette, ça me fait plaisir, parfait. Qui a écouté de la musique pour se détendre? Ou qui écoute régulièrement de la musique avec cet objectif de se détendre? Ok. Qui a l'habitude d'écouter de la musique, au contraire, pour se motiver, se booster physiquement ou mentalement? Ok, génial, super, parfait. Bon, en fait, ça témoigne, voilà, que la musique, finalement, elle n'est pas là que pour notre plaisir, mais on peut aussi l'utiliser comme un outil qui peut être un bénéfice pour notre santé mentale et physique. Alors, la question, en fait, c'est est-ce que ça marche vraiment d'écouter de la musique pour se détendre, d'écouter de la musique pour se motiver, hein? Bon, c'est la question. Est-ce que ça marche vraiment ou est-ce qu'on est en train de se raconter une belle histoire? Alors, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question donc qui fait l'objet, hein, de l'ensemble de cette présentation. Alors, pour répondre à cette question... j'ai organisé cette présentation donc en quatre petits chapitres, on va dire, pour comprendre pourquoi, comment la musique peut avoir des effets potentiels sur notre physique et sur notre mental. En fait, l'origine, c'est un phénomène que les neuroscientifiques connaissent déjà depuis longtemps, qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc j'aborderai cette présentation déjà en vous présentant quels sont les effets de la musique, qu'on la pratique ou qu'on l'écoute, sur le cerveau. Alors, c'est de cette plasticité cérébrale qu'on peut expliquer finalement les bénéfices qu'on a observés de la musique, que ce soit sa pratique ou sa simple écoute, sur notre santé physique et mentale ou cognition, c'est-à-dire sur nos fonctions intellectuelles, attention, mémoire, etc. Alors, quand on est en bonne santé physique et mentale, naturellement, on se sent bien. Donc, il y a toute une partie de mon travail récent où j'essaye d'évaluer les effets sur le sentiment de bien-être. Et ce sentiment de bien-être, en fait, on peut le mesurer, d'accord, via des variables physiologiques. Et puis, je terminerai cette présentation par une question qui nous concerne tous et qui fait fait l'objet actuellement d'études scientifiques récentes et qui témoignent que la pratique de la musique ou l'écoute simple peut être bénéfique pour le sentiment de bien vieillir ou donc à la fois sur des aspects physiques et des aspects psychologiques de santé mentale. Alors, la plasticité cérébrale, donc là en ce moment, sauf si vous dormez déjà profondément, et encore, la plasticité cérébrale, c'est ce mécanisme par lequel finalement le cerveau peut se modifier lors d'un apprentissage. Donc là, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train éventuellement de faire des liens avec des choses que vous connaissez, ou déjà ça sollicite une question. Ben, le cerveau, c'est 100 000 milliards de neurones qui sont en permanence, d'accord, en activité, en train de se modifier, en train de créer des nouvelles connexions, éventuellement aussi en train de supprimer certaines connexions, d'accord, hein, on parle tout le temps de nouvelles connexions, mais c'est ça la base de tout apprentissage. Alors, quelle que soit l'activité que vous avez choisi de faire, de façon plus ou moins intense, hein, alors là aujourd'hui on va parler essentiellement de la musique, mais finalement ces changements, on peut les observer aussi par exemple chez les sportifs de haut niveau, d'accord, hein, qui vont s'entraîner toujours à réaliser des mêmes gestes. Et donc, quel que soit le domaine, donc là pour la musique, eh bien on va observer deux types de changements, donc deux types d'effets sur le cerveau. Dans un premier temps, on peut observer ce qu'on va appeler des changements structuraux, c'est-à-dire que la pratique intensive de la musique va modifier la structure de certaines régions corticales. Alors quand on dit modifier certaines régions corticales, souvent bah, on va observer par exemple que des aires corticales sont plus grandes chez les musiciens que chez les non-musiciens. Et puis deuxième type de changement, c'est ce qu'on va appeler plutôt des changements fonctionnels. Donc là c'est un effet de la pratique de la musique, pas sur des différences de structure au niveau du cerveau, mais plutôt sur la façon dont le cerveau va fonctionner. Alors, deux exemples de ces changements structuraux et fonctionnels. Pour ce qui concerne les changements structuraux, ça fait bien longtemps, hein, l'équipe de Elbert, hein, et collaborateurs, avait déjà observé qu'une surface du cerveau, donc en particulier le cortex sensorimoteur, des deux derniers doigts de la main gauche chez les violonistes, était plus importante. Alors, le cortex sensorimoteur, en fait, il est composé de deux régions, donc en rouge, le cortex moteur primaire et en bleu, le cortex sensitif. Alors, vous le savez sans doute, en fait, on a une représentation donc sur ce cortex sensorimoteur de toutes les parties de notre corps. Et plus une partie va être sollicitée, plus, en fait, le cerveau va donner de la place à cette partie. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a une représentation de notre corps qui est assez particulière, on va dire, au niveau du cortex moteur et au niveau du cortex sensitif. Donc là, vous voyez, la bouche est surreprésentée, la langue est surreprésentée. Par contre, bon, le petit doigt de la main gauche l'est moins parce que il est moins sollicité. Alors, donc cette équipe, en fait, avait observé que chez les violonistes, comme ils sollicitent énormément ce petit doigt de la main gauche, eh bien, du coup, le cerveau avait fait de la place pour être plus efficace en quelque sorte. Alors, cette autre image est aussi impressionnante. Vous avez, donc ça, c'est le scan, en fait, donc en haut d'un violoniste, donc de la main droite et de la main gauche. Alors, c'est inversé, d'accord. Donc, ce qui est représenté à droite ici, c'est la représentation de la main gauche, et en bas d'un pianiste. Alors, quand je dis le cerveau fait de la place, on est d'accord, c'est pas, sinon on serait un peu difforme. En fait, pour faire de la place, il crée des sillons. D'accord, hein, donc plus les sillons sont profonds, plus ça veut dire que j'ai de la place, d'accord, pour représentant une partie du corps. Et là, ben, en fait, ce qu'on voit très clairement, c'est que en haut chez le violoniste, vous voyez là, il y a un sillon beaucoup plus profond et qui correspond effectivement à la main gauche, d'accord, ce qui est pas le cas pour la main droite. Et pour le pianiste, où lui, eh ben, finalement, lui, il sollicite les deux mains, d'accord, eh bien, on voit que ce sillon, ben, on va l'observer de façon bilatérale, donc des deux côtés, main droite et main gauche. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, quand je parle de changements structuraux, c'est-à-dire, voilà, ça a modifié, d'accord, une partie, une région corticale. Pour ce qui concerne les changements fonctionnels, là je vais m'appuyer sur une étude de Fauvel et son équipe, où ils ont donc enregistré l'activité cérébrale de musiciens et de non-musiciens, donc au repos, hein, il n'y avait pas de tâche particulière, et ils ont comparé l'activité cérébrale de ces deux groupes, musiciens et non-musiciens. Alors première observation, ils observent que le volume de la substance grise, qui correspond donc à la substance grise, c'est grâce à elle qu'on peut mémoriser, percevoir, voilà, hein, toutes les fonctions cognitives sont basées sur cette substance grise, donc qui est représentée ici en rouge, d'accord. Donc cette substance grise, pardon, était plus importante chez les musiciens. Alors ça c'est encore un changement plutôt de nature structurelle. Le plus intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont montré, donc ils ont mesuré en fait la connectivité entre différentes aires cérébrales. Et ce qu'ils observent, c'est que cette connectivité, on parle de connectivité fonctionnelle, c'est-à-dire un dialogue entre différentes régions corticales, cette connectivité fonctionnelle, elle était plus importante chez les musiciens entre cette région en rouge, d'accord, hein, où on a un volume de substance grise plus important, et d'autres régions corticales, et des régions corticales qui sont impliquées dans notamment la mémoire autobiographique, la mémoire sémantique, le langage, donc des régions dédiées au traitement du langage, ou encore au jugement émotionnel. Donc c'est comme si en fait la pratique de la musique permettait d'augmenter le dialogue, d'accord, entre les différentes aires corticales. Alors, si on réfléchit à ce que ça implique de pratiquer de la musique, quel que soit l'instrument, c'est pas très étonnant, cette observation donc de cette augmentation du dialogue entre les aires corticales, parce que faire de la musique, enfin jouer d'un instrument, évidemment, ça va solliciter les aires auditives, d'accord, hein, donc dédiées au traitement de l'information auditive. Ça va solliciter le cervelet, alors ça c'est plutôt les aspects temporels, rythmiques, hein, je reviendrai dessus. Si on apprend la musique en apprenant à lire des partitions, ça va solliciter le cortex occipital derrière, c'est le traitement de l'information visuelle. Si on fait du chant, ça va solliciter les aires dédiées au traitement du langage. Le cortex sensori-moteur, hein, dont j'ai déjà parlé ici. Et puis la musique, c'est aussi source de générer des émotions, d'accord. Donc ça va aussi solliciter des aires préfrontales ou orbitofrontales sur le traitement, le jugement émotionnel ou le traitement des émotions. Et puis si on s'engage dans une activité de composition, par exemple, là ça va solliciter des régions corticales, notamment frontales, qui sont le siège de fonctions cognitives qu'on dit de haut niveau, donc de l'attention, la mémoire, etc. Donc on voit ici que finalement pratiquer la musique, ça stimule tout le cerveau. Donc l'idée que la musique c'est à droite et le langage c'est à gauche, vous repartez, c'est faux. D'accord. En fait, la musique, c'est tout le cerveau s'allume. Et quand on enregistre simplement l'activité cérébrale d'individus juste en écoute passive, on voit que tout s'éclaire dans le cerveau. D'accord. Quand on pratique la musique, donc on l'a vu, ça stimule cette plasticité cérébrale, ça engendre donc des changements structuraux et fonctionnels, et ça explique du coup le fait qu'on puisse observer un bénéfice de la pratique de la musique sur d'autres compétences. Alors, quand ces compétences sont étroitement liées à la pratique musicale, proprement dite, on parlera de transfert étroit. Donc, comme type de transfert étroit qu'on a pu déjà observer, notamment en neurosciences, via des études d'imagerie cérébrale, on a observé que chez les musiciens, par exemple, il y avait un couplage visuo-auditif plus important, de même un couplage visuo-moteur et ou encore un couplage auditivo-moteur. Alors le couplage visuo-auditif, c'est quand on devient expert, qu'on lit une partition, par exemple, les musiciens experts arrivent, en lisant la partition, à avoir ce qu'ils appellent un chant intérieur, d'accord, hein, ils entendent la musique rien qu'en regardant la partition. Donc ça, c'est plutôt cette stimulation du couplage entre traitement visuel et traitement auditif. Pour ce qui concerne le couplage visuo-moteur, ben, là encore, quand je regarde une partition et que je dois associer un geste particulier pour jouer un do, d'accord, bah, c'est un couplage visuo-moteur, d'accord, hein, qu'on apprend et qu'on répète, hein, quand on pratique la musique. Et pour le couplage auditivo-moteur, bah, là, c'est effectivement lorsque je vais associer, par exemple, un geste moteur sur mon instrument à une sensation auditive ou une sensation musicale. Alors, juste sur ce couplage auditivo-moteur, parce que c'est sur ces observations-là que je vais m'appuyer ensuite pour vous présenter deux exemples cliniques. Sur le couplage auditivo-moteur, j'aime bien cette étude. Elle était assez originale. En fait, ils ont proposé à des pianistes professionnels et des non-musiciens de réaliser deux types de tâches, et ils ont enregistré l'activité cérébrale pendant l'exécution de cette tâche. Alors, les tâches, elles étaient très simples. Il y avait une condition où les participants écoutaient simplement une mélodie, une musique, d'accord ? Donc, c'est une tâche auditive. Et puis, dans une deuxième condition, ils ont demandé aux participants d'appuyer sur les touches d'un clavier, mais muet, d'accord ? C'est-à-dire, il n'y avait pas de... C'était juste moteur, il n'y avait pas de son qui sortait du clavier. Alors, ce que vous avez ici représenté, c'est les régions cérébrales où les auteurs de cette étude observent une activité plus importante chez les pianistes que chez les musiciens, d'accord ? Donc c'est là, à chaque fois, là, ce qui est en rouge, c'est des régions cérébrales où l'activité chez les pianistes est plus importante que chez les non-musiciens. Et ce, donc, dans les différentes conditions. Donc si on compare la condition auditive, donc ils écoutaient simplement de la musique, eh bien, on observe chez les pianistes qu'en fait, le fait d'écouter de la musique a activé des régions corticales qui sont liés au geste moteur, à la motricité, d'accord ? C'est-à-dire le fait d'écouter simplement, d'accord, génère une activité plus importante dans des régions corticales dédiées à la motricité. Et si on regarde ce qui se passe dans la condition, cette fois-ci où on leur demandait juste de taper sur les touches d'un clavier muet, eh bien, chez les pianistes, ce qu'on observe, et ce qu'on n'observe pas chez les non-musiciens, c'est que eux, quand ils appuient sur le clavier muet, eh bien, les régions corticales dédiées au traitement de l'information auditive sont activées, plus activées que chez les non-musiciens. Donc ça témoigne de ce couplage particulier, d'accord, qu'on va observer entre les régions corticales dédiées au traitement de l'information auditive et celles dédiées à la motricité. Alors, à quoi ça peut servir ce couplage auditivo-moteur ? Donc, deux exemples cliniques. Eh bien, ça peut servir à aider certains patients aphasique récupérer la production de la parole. Et le rythme, lié aussi à ce couplage auditivo-moteur, peut aussi aider certains patients présentant notamment la maladie de Parkinson, d'accord, on a un trouble moteur sévère, en utilisant la musique. Alors, chanter ce que l'on ne peut plus dire. Donc, je vais vous demander de répéter la phrase suivante, donc, ou de la chanter d'ailleurs, c'est comme vous voulez, vous choisissez, d'accord, hein. Alors, la phrase est la suivante: la musique soigne le cœur et l'esprit. Allez-y, je vous écoute. Ok, c'était très beau. On peut le refaire en chantant, non? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là, dans votre cerveau? Je vous ai simplement demandé, voilà, de répéter cette phrase. Alors, ce qui s'est passé, c'est déjà, il y a eu un traitement auditif. Vous m'avez écouté, d'accord ? Donc traitement, donc là ici, ça veut dire que ça va se faire au niveau de l'aire de Wernicke, d'accord ? Qui est cette aire-là, cette région-là. Et là, on sait que c'est ça qui traite, d'accord, l'information auditive dédiée au langage. Mais moi, la tâche que je vous ai demandé, c'est de répéter la phrase. Donc la consigne, c'était de répéter. Donc ça veut dire que vous l'avez traité auditivement, puis après il a fallu programmer la production de cette phrase. Donc pour ça, bah, en fait, c'est plutôt au niveau de l'aire de Broca que ça se passe, la programmation, d'accord, des sons de parole. Et de cette aire de Broca, donc c'est là qu'on va coder les phonèmes, etc. Je fais vite. Et ensuite, on retrouve l'aire motrice, d'accord, hein, parce que parler, c'est du moteur, c'est de la programmation motrice. Mais il faut une connexion entre ces deux aires, vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment, le cerveau, il faut qu'il fasse, qu'il dise, OK, moi, je veux que j'ai traité ça, maintenant, c'est ton job, tu vas faire en sorte de répéter correctement la phrase. Alors, en fait, cette connexion, elle se fait via des fibres nerveuses qui regroupées donc correspondent à ce qu'on appelle le faisceau arché. Donc, c'est un peu une autoroute, d'accord, hein, qui fait le lien entre l'aire auditive et l'aire de programmation motrice. Alors, ici, vous avez le scan de ce faisceau arché. On en a deux, droite-gauche, chez un musicien donc de 65 ans et chez un non-musicien, donc à peu près du même âge. Et vous voyez ici que ce faisceau arché est beaucoup plus dense, beaucoup plus de fibres. C'est surtout du point de vue de la longueur et du nombre de fibres qu'on observe cette différence. Alors vous me direz, c'est peut-être un hasard. Ok. Alors deuxième exemple, là vous avez ici en haut le scan d'un enfant de 8 ans, donc sans expérience musicale, et qui a été scanné à 2 ans d'intervalle, d'accord, en A, et puis 2 ans après en B. Alors on voit, ça se développe, d'accord, hein, ça s'est développé, c'est normal, voilà. Et ici, c'est le scan d'un enfant de 8 ans, mais cette fois-ci, donc pareil, qu'on a scanné donc à 2 ans d'intervalle, mais pendant ces 2 années, cet enfant, en fait, s'était engagé dans l'apprentissage d'un instrument, un instrument à cordes. Mais... Et là, on voit que, vous voyez, quand on compare le développement de ce faisceau arché, il est bien plus important chez l'enfant de 2 ans qui s'était engagé donc dans une pratique musicale. Alors, Schlog et son équipe se sont dit, mais si ça agit autant sur ce faisceau arché, qui est essentiel, chez des patients qui vont présenter des aphasies, et en particulier ce qu'on appelle les aphasies de Broca, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des difficultés à répéter, ils comprennent le langage, mais ils n'arrivent plus à répéter correctement la parole, ils ont proposé justement à un patient aphasique de réaliser une thérapie qu'on appelle une thérapie par intonation musicale, et ils ont scanné avant et après la thérapie l'activité cérébrale et en particulier le faisceau arché. Alors c'est moins impressionnant que sur les images précédentes, mais c'est significatif, c'est-à-dire qu'il y a eu une stimulation du développement du nombre de fibres de ce faisceau arché et surtout qui est corrélée avec les progrès observés chez ce patient aphasique. Alors ça, c'était pour ce premier exemple. Le deuxième exemple du rythme pour remarcher. Alors, dans le cas des patients présentant donc la maladie de Parkinson, donc les symptômes essentiels sont des tremblements et puis une rigidité à la marche, des difficultés qui peuvent notamment entraîner des chutes. Ce qui se passe donc dans le cas de ces patients, c'est un problème au niveau des ganglions de la base, qui c'est la petite zone en jaune ici. Donc en fait, quand je marche, j'ai une programmation, je dis c'est au niveau frontal, je vais avancer mon pied gauche, mon pied droit, etc. Ça part du cortex frontal, préfrontal, ça va vers les ganglions de la base, puis le thalamus ici en vert, et puis après, de nouveau, il faut la connexion pour programmer au niveau moteur le mouvement souhaité. Alors, comme chez les patients parkinsoniens, en fait, on a un problème au niveau des ganglions de la base, on s'est aperçu que on présentait un clic, d'accord, c'est pas de la musique, mais un tempo précis, ça aidait, ça fluidifiait la marche chez ces patients. Alors, comment l'expliquer? Ce qui se passe, c'est que quand j'entends, alors ça peut être une musique aussi avec un tempo particulier, donc quand vous écoutez une musique et que vous dansez spontanément sur cette musique, d'accord, en fait, ça stimule directement une structure ici sous-corticale, donc le cervelet, et le cervelet donc est activé, il va directement envoyer donc l'information au niveau du thalamus, et ici, si on suit les flèches rouges, bah du coup ça va stimuler l'air motrice supplémentaire. Donc en fait c'est comme si grâce à la musique ou à ce tempo régulier, en fait, le cerveau prend un itinéraire bis, d'accord, et il contourne les ganglions de la base qui sont déficients ici chez ces patients. Alors, ça a donné lieu vraiment à, c'est notamment Thaux et collaborateurs qui travaillent beaucoup là-dessus, donc où ils enregistrent comme ça, donc en présence d'une musique ou en présence d'un tempo donné, ils enregistrent par exemple la longueur des pas, si les pas sont plus assurés, si le patient peut accélérer, s'il a une démarche plus naturelle, donc ils ont des tapis comme ça où ils enregistrent plein de paramètres, et ils ont montré que lorsque le patient est stimulé par une musique ou par un tempo donné, eh bien, il tend à synchroniser ses pas, d'accord, sur le rythme de la musique. Alors, je vais vous présenter une petite vidéo ici d'un patient justement qui utilise. Alors, je tiens à préciser que cet effet positif, il peut marcher aussi si on met des barres lumineuses à des espaces réguliers. Ça marche aussi. Il y a juste que, pour le coup, c'est quand même moins sympa que d'écouter de la musique, d'accord ? D'autant qu'ils sont en train de développer un outil pour aider les patients lorsqu'ils marchent dans la rue, par exemple. Alors, donc je vous montre cette petite vidéo. Alors, ça, tout ce que je viens de vous dire là jusqu'ici, ça témoigne de transfert dit étroit, parce qu'on comprend le lien assez direct, d'accord, entre la pratique musicale et ses effets de couplage auditivo-moteur, visomoteur ou viso-auditif. Mais pratiquer de la musique, ça peut aussi avoir des effets sur des compétences qui, a priori, sont beaucoup plus éloignées, d'accord, que ces couplages visomoteur, auditivo-moteur. Donc, notamment, il y a toute une revue de la littérature là-dessus, sur ce qu'on appelle ces transferts lointains, donc avec une stimulation des habiletés langagières, viso-spatiales, un bénéfice sur le raisonnement non-verbal, etc. Bon, toutes ces études, en fait, elles se sont développées suite notamment à une étude qui a été publiée dans une revue hyper prestigieuse, Nature. Voilà, si vous publiez dans Nature, c'est bon, votre carrière est faite. Et cette étude, en fait, elle montrait que ils ont testé via un test de quotient intellectuel d'étudiants avant et après avoir écouté de la musique de Mozart. Et ils montrent que après avoir écouté la musique de Mozart, enfin une pièce en particulier, le QI augmentait chez ses étudiants. Donc d'où l'effet Mozart. Alors je ne vous dis pas, cette étude, du coup, elle a généré pléthore de... les mères commençaient à faire écouter du Mozart à leurs enfants. Il y a même une loi en Floride où ils imposaient de mettre la musique de Mozart pendant la sieste dans les crèches. D'accord, hein. Donc voilà, il y a eu tout un effet, hein, donc effet Mozart. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur cet effet. Ça peut être un effet d'humeur, ça peut être un effet d'éveil, ça peut être un effet d'accord, mais ça ne va pas augmenter notre intelligence d'écouter Mozart. Bon, ça nous ouvre l'esprit quand même, tout de même, donc je vous invite à écouter Mozart tout de même. Alors, le plaisir dans tout ça, oui, d'autant que, en fait, si vous n'aimez pas Mozart, ça ne va pas marcher, d'accord ? Donc en fait, c'est surtout le plaisir qu'on peut avoir à écouter du Mozart, et notamment, bon, ça c'était une étude assez rigolote de Schellenberg et Alam, où en fait ils ont fait écouter un chanteur très populaire en Angleterre, où ils montrent le même effet chez des jeunes, enfin des adolescents, d'accord, hein, donc finalement Mozart, Bach, Michael Jackson ou Boyan Z, j'ai mis Boyan Z parce que moi je l'adore. Eh ben voilà, c'est le plaisir, d'accord. Alors ça me permet de faire ma transition avec la deuxième partie ici sur le bien-être et santé mentale. Alors, vous savez, quand vous êtes stressé, Ce qui se passe au niveau du système nerveux central, vous allez avoir une activité d'un système, le système nerveux autonome, et en particulier ce système nerveux autonome, il est divisé en deux sous-systèmes, un système dit sympathique et un système dit parasympathique. Alors ce système nerveux autonome, en fait, il régule plein de choses. Il régule le rythme cardiaque, la tension artérielle, la respiration, la température corporelle, la vessie, la digestion. Enfin, il est lié, d'accord, hein, c'est lui qui régule toutes ces fonctions physiologiques. Alors, quand vous êtes stressé, en fait, c'est le système nerveux dit sympathique qui va être activé, d'accord ? Et naturellement, l'organisme va chercher à se rétablir au repos. Pour cela, du coup, on va avoir une activité du système parasympathique. Para, d'accord, qui va contrer l'activité du système sympathique. C'est pour ça qu'on le représente sous forme de balance, d'accord ? Quand la balance, elle est équilibrée, je suis bien. D'accord ? Là, moi, elle est un petit peu déséquilibrée, mais elle se rééquilibre au fur et à mesure. Alors, du coup, quand c'est équilibré, l'activité du système sympathique et parasympathique, c'est un sentiment de bien-être corporel, physique, d'accord ? Et mental. Et ce sentiment de bien-être, ben, on peut le mesurer. On peut le mesurer en mesurant ben, notamment l'activité électrodermale, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la variabilité du rythme cardiaque, etc. Alors c'est ce qu'on a fait dans une étude à l'université. On a en fait proposé à des participants, dans un premier temps, on mesurait l'activité électrodermale et la variabilité cardiaque. C'est un peu différent du rythme cardiaque, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la mesure de la variabilité du rythme cardiaque, en fait, ça nous permettait de mesurer l'activité justement du système parasympathique. Donc, on a proposé aux participants de réaliser des tâches cognitives en temps limité, un petit peu stressantes. On les a pas hyper stressées, mais bon, voilà. Et on sait que ça active le système sympathique. Et puis, ensuite, on leur a proposé, soit pour un groupe de se détendre pendant une demi-heure dans le silence, soit pour l'autre groupe, on leur proposait d'écouter de la musique relaxante. Et on a ainsi donc mesuré l'activité du système parasympathique. Alors, je vous explique ici. Donc là, on a au tout début de l'expérience. Ensuite, ce qui se passe juste à la fin de l'exécution des tâches cognitives stressantes. Et puis, on a mesuré au bout de 10 minutes, 20 minutes et 30 minutes, qu'est-ce qui se passait au niveau de la variabilité cardiaque. Plus c'est haut, plus ça veut dire qu'on est détendu. C'est l'inverse, hein. Désolé, bon, ça fait partie des mesures physiologiques. Donc plus c'est haut, plus ça veut dire qu'on est détendu. Et plus c'est bas, plus ça veut dire qu'on est stressé. Donc là, voilà, on voit les deux groupes étaient un peu plus stressés. Ça veut dire une activité du système sympathique, d'accord, après l'exécution des tâches cognitives. Et puis, on voit une augmentation donc suite au repos. Et donc ici, en rouge, vous avez le groupe qui a écouté de la musique pendant 30 minutes, et en bleu, le groupe qui s'est reposé dans le silence. Et on voit, en fait, on a une différence significative, c'est-à-dire que le groupe qui a écouté pendant 30 minutes après l'exécution de ces tâches stressantes, eh ben, récupérer plus vite, ou du moins l'activité du système parasympathique, d'accord, l'équilibre entre l'activité du système parasympathique et sympathique était plus rapidement observé. Alors, dernière question qui nous concerne tous, je crois que je dépasse un petit peu, c'est pas grave. Est-ce que finalement s'engager dans une pratique de la musique peut nous permettre préserver nos capacités à la fois cognitives et notre santé mentale? Alors ça vient d'une hypothèse notamment de Alain, hein, et collaborateurs. Donc ici, ce qui est représenté, c'est les fameux changements structuraux dont je vous ai parlé là au tout début, et les changements fonctionnels en fonction de l'âge. Alors évidemment, plus on va commencer très tôt la musique, plus on va observer des changements structuraux. Mais c'est pas grave, on s'en fout en fait, parce que même si vous commencez tard la musique, c'est pour ça que je dis il est jamais trop tard, même si vous commencez tard, on observera de toute façon des changements, mais qui seront peut-être plus de nature fonctionnelle. Mais ces changements fonctionnels, en fait, ils sont très liés à ce qu'on appelle la réserve cognitive. Et c'est ça qui expliquerait que l'engagement, même tardif, d'accord, aura toujours un bénéfice sur le vieillissement cognitif et la santé mentale. Alors, ce qu'ils ont observé, et c'est l'hypothèse qu'on s'est également posée dans une dernière étude là, que je vais vous présenter, c'est soit j'ai ce qu'ils appellent une différence préservée, c'est-à-dire que je vais avoir des performances donc en fonction de l'âge qui vont diminuer, c'est normal, c'est le vieillissement, et avec éventuellement pour certaines fonctions cognitives, les habiletés langagières par exemple, des performances plus importantes chez les musiciens comparées aux non-musiciens. Ça c'est ce qu'ils ont appelé la différence préservée. Ou bien je vais observer un autre phénomène, et ils parlent là de préservation différente. C'est-à-dire que je vais observer une dégradation de mes compétences cognitives. Encore une fois, c'est normal, c'est le vieillissement, on y est tous sujets. Par contre, cette diminution, elle va être moins importante chez les musiciens que chez les non-musiciens. Et ce serait ça l'effet protecteur de la pratique musicale sur les réserves cognitives. Alors on a testé cette hypothèse dans une étude où notamment grâce à la Fédération musicale de Savoie qui nous ont vraiment bien aidés, on avait quatre groupes de participants, des 20-30 ans musiciens, 20-30 ans non musiciens, 60-80 ans musiciens, 60-80 ans non musiciens, et on les a testés sur plein de tâches. Je ne vous les présente pas toutes, donc des tâches cognitives, des tâches de perceptives également. Les résultats qu'on observe sont les suivants. Donc sur les capacités attentionnelles, là c'est les capacités d'inhibition, d'accord ? Donc ce qu'on observe, c'est, là il y a le groupe 20-30 ans, et là c'est le groupe 60-80 ans, et en rouge les musiciens, et en bleu les non-musiciens. Et on voit ici que les capacités d'inhibition, d'accord ? Alors, plus ça monte, plus c'est pas bon, d'accord, hein. Donc on voit un effet significatif, c'est-à-dire une diminution de ces capacités d'inhibition chez les musiciens, et pas de différence significative entre nos deux groupes chez les non-musiciens. Donc on est bien dans une préservation différente. De même sur l'anxiété, le niveau d'anxiété augmente chez les non-musiciens entre 20-30 ans et 60-80 ans, mais reste stable chez les musiciens. Et de même pour des aspects de mesures de santé mentale, donc anxiété et dépression. Donc on a bien ici une préservation différente, à la fois de compétences cognitives, je ne vous présente que les capacités attentionnelles, mais on l'a observé sur des tâches mnésiques notamment, et aussi sur des dimensions liées à la santé mentale, qui diminuent normalement avec l'âge, mais de façon moins rapide chez les musiciens. Donc pour conclure, on a vu finalement la pratique de la musique ou l'écoute seule, agit sur plusieurs domaines, donc notamment via cette plasticité cérébrale, donc il va avoir un effet direct sur les fonctions cognitives, mais elle agit aussi sur notre bien-être, en générant éventuellement des émotions positives, et donc améliorer notre humeur, notre niveau d'anxiété ou de dépression. Et on sait aussi que la pratique de la musique, c'est une activité qui va renforcer aussi le lien social. Et le lien social, c'est essentiel pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Et je vous remercie de votre attention.
Merci infiniment pour cette présentation concise et passionnante. C'est le temps des échanges. Donc voilà, donc j'ai le micro qui servira de bâton de parole, comme ça sera plus efficace pour les prises de parole. Donc qui veut se lancer dans la première question? J'arrive.
Bonjour, merci pour cette présentation. C'était vraiment fort intéressant. Vous avez évoqué la maladie de Parkinson. Je suis principalement concernée puisque mon papa en est atteint. Est-ce qu'il faut comprendre que quand il va marcher, parce qu'on le pousse à marcher régulièrement, le conseil c'est de porter un casque avec une musique qui peut le stimuler à avoir une marche active un peu dans la durée, puisque souvent ça c'est courte et de plus en plus.
Alors, c'est dommage, la vidéo, là, je sais pas, j'ai pas réussi, mais bon, à la limite, je pourrais vous la transférer si vous voulez, vous me donnez un mail. L'idée, en fait, c'est de cette équipe, c'est justement, alors, de porter des, vous savez, des casques à conduction osseuse, parce qu'il ne faut pas se couper, évidemment, des autres stimulations quand on marche dans la rue. Mais c'est tout l'intérêt de la musique, parce que je vous disais, ça marche avec les bandes de lumière, mais on ne va pas mettre des bandes de lumière pour aller chercher le pain, d'accord ? C'est bien plus simple d'écouter de la musique. Et donc, en fait, ce qu'ils observent vraiment, c'est que, bon, c'est pas tant, enfin, c'est la musique, c'est essentiellement l'aspect temporel. D'accord, c'est le rythme. Il faut qu'il y ait un rythme. Et donc ça, on le retrouve dans n'importe quelle musique. Et en plus, on peut choisir la musique qu'on préfère écouter. Et donc, ce qu'ils observent, c'est en fait, le patient, il va se caler sur le rythme de la musique et avec donc une marche plus fluide, plus assurée, éventuellement plus rapide. D'accord. Et tout pendant que la stimulation est là, ça maintient. D'accord. Alors après, quand ça guérit pas. D'accord, hein, c'est juste un moyen, voilà, de.
On sait que l'effort physique est nécessaire pour maintenir.
Oui, donc du coup, ça permet aussi de maintenir cet effort physique.
Oui, moi, ma question est la suivante. Je suis grand-mère, mes petits enfants ont des casques, écoutent de la musique qui moi me met dans un état tout à fait déplorable. Est-ce que toute musique a des effets bienfaisants ou est-ce que ça peut être dévastateur ?
Alors, bonne question. C'est vrai que là, j'ai très orienté la présentation sur les effets bénéfiques. Mais la musique, alors déjà, ça ne marche pas pour tout le monde parce que tout le monde n'aime pas la musique. Il y a même ce qu'on appelle l'anédonie musicale, d'accord ? Qui est un trouble, c'est des gens qui n'aiment pas la musique, d'accord, hein, et c'est, on sait ce qui se passe, hein, enfin, bon. Donc évidemment, ils n'écoutent pas de musique, et évidemment, ça ne va pas les aider, d'accord. La musique, elle peut aussi avoir des effets, je crois que c'est vraiment le plaisir, d'accord, toutes les études ici, quand on montre des effets bénéfiques de la musique, maintenant, on se rend compte qu'il faut quand même faire très attention aux préférences musicales des participants. Après, il y a des paramètres dans la musique quand même. On sait qu'une musique relaxante, ça va plutôt être une musique tempo lent, mode majeur. Enfin, bon, c'est essentiellement ce qui est utilisé dans les études. Mais bon, si vous n'aimez pas la musique classique, ça ne va pas forcément vous relaxer. D'accord ? Donc en fait, tout ça, c'est une interaction entre les préférences, les goûts et ce qui vous... Donc voilà. Par contre, je pense que ça fait très plaisir à vos petits-enfants d'écouter cette musique. Donc ça doit les stimuler. Donc, faut écouter la musique que l'on aime. Et sur les effets délétères, la musique a aussi été utilisée comme moyen de torture, d'accord, hein. La musique peut, par exemple, aussi, il y a pas mal d'études en conduite automobile où on montre que si on écoute de la musique fort, rythmé, etc., on fait plus d'erreurs, on est moins attentif. Ça, c'est des effets négatifs, d'accord. Donc là, voilà, bon, il marche avec un déambulateur, c'est assez fastidieux. J'avance un petit peu, d'accord, hein. Et là, elle lui met la musique. Alors, vous voyez qu'il se met au tempo de la musique, comme ça. Voilà. Et là, il marche. Voilà. Et après, il va même lâcher le déambulateur. Elle le tient toujours, bon, pour éviter les chutes. Vous voyez, c'est beaucoup plus fluide. C'est moins hésitant. Il marche plus rapidement. Et là, si j'avance un petit peu, bon, j'écourte un petit peu, on va le voir, donc, là, même il danse, là, d'accord, c'est... Bon, on va arrêter là, parce qu'après, après, c'est plus, voilà.
Bonjour et merci. Moi, je voulais vous demander si la musique, le tempo pouvait se... Est-ce qu'il se... cale sur le rythme cardiaque, ou plutôt le rythme cardiaque peut se caler sur le tempo. Et du coup, ma question, c'était dans la pratique du sport, est-ce que ça peut avoir une influence, la course à pied par exemple, est-ce qu'il vaut mieux plutôt courir dans le silence pour être attentif à son corps et à ses sensations plutôt que d'avoir de la musique
Alors, la musique, elle est beaucoup utilisée hein, pour se stimuler dans le sport. D'accord ? Je vous vois plus, mais ouais. Oui, alors, le rythme cardiaque, oui, mais surtout, ce qu'on a observé, c'est que l'activité cérébrale va se caler sur le tempo de la musique. Il y a une connexion, d'accord, entre l'activité cérébrale. Quand on écoute une musique, notre activité cérébrale va aussi se caler sur le rythme de la musique. Donc, à la limite, vaut mieux, mais encore une fois, si c'est de la musique qui vous plaît, écouter de la musique en courant, c'est très bien. Avec un casque à conduction osseuse pour ne pas se couper du monde extérieur.
Est-ce que si, par exemple, on a des émotions très fortes, moi, je sais que quand j'écoute de la musique, ça m'apaise beaucoup plus quand j'ai des émotions très fortes, que ce soit de la tristesse, ou sinon ça fait relâcher des émotions très fortes. Hein, je sais pas comment dire, mais par exemple, quand on est très énervé ou très fatigué, est-ce que ça peut relâcher les émotions positives, négatives ?
Oui, c'était d'où ma question pour démarrer cette présentation. En fait, tout le monde ne le fait pas, mais souvent on va écouter de la musique pour se relaxer ou éventuellement pour se motiver ou donc pour se calmer si on a eu une émotion effectivement... la musique ça génère des émotions, oui. Ça c'est sûr, oui. Et d'ailleurs, quand on écoute une musique qui nous plaît particulièrement et tout, ça va générer des émotions positives ou négatives si c'est une musique qu'on n'aime pas, d'accord ? Donc, c'est même un moyen très fort de générer des émotions.
Bonjour. Ouais. Et merci encore beaucoup pour cette présentation. Et j'avais une question, vous avez beaucoup parlé de musiciens, non-musiciens, mais est-ce que l'écoute simple et peut-être intensive ou pas a les mêmes effets ou des effets différents suivant à différentes échelles
Moi, j'avais pas le temps, mais effectivement, l'écoute simple suffit à observer des changements, notamment au niveau du cortex sensorimoteur. Il y a une étude où, par exemple, ils demandaient aux gens pendant 15 jours de faire une petite mélodie sur un clavier, mais qu'avec une main, main droite, je ne sais plus, et de ne pas utiliser la main gauche. Ils avaient déjà vu des... Alors ça, c'est la pratique, on est d'accord. Hein, je ne réponds pas exactement à votre question, mais c'est pour vous dire que les effets sont très rapidement observés. Alors, évidemment, plus la pratique génère des effets plus importants, et peut-être plus variés aussi, mais l'écoute simple suffit. D'accord. Là, d'ailleurs, l'étude que je vous ai montrée sur la variabilité cardiaque, c'était de l'écoute simple. D'accord. C'était pas de la pratique. Donc, on a aussi des effets sur une simple écoute.
Et est-ce que du coup, dans l'écoute intensive, on arrive à un stade où la musique fait plus d'effet vu qu'on est un peu trop habitué. Est-ce que ça peut arriver ou pas d'être trop habitué, du coup, de plus ressentir les effets bénéfiques de la musique parce qu'on Est-ce que si on écoute trop de musique, je ne sais pas s'il y a trop de musique, mais dans l'écoute intensive, est-ce qu'on peut arriver à s'habituer à la musique et plus avoir les effets bénéfiques de la musique et du coup arriver à un seuil où la musique fait plus d'effet ? Je sais pas si...
Ça dépend de quel effet on parle, je pense.
C'est notamment sur le sympathique et parasympathique ou le niveau de battement du cœur et tout ça, le rythme cardiaque.
C'est une question qu'on se pose parce que là, vous voyez, on a fait 30 minutes, mais en fait, on a l'impression que ça continue à augmenter, mais on n'est pas allé au-delà. Mais j'ai pas la réponse à cette question. Mais peut-être l'année prochaine, quand on aura fait la manip.
Bonjour, merci pour la présentation. Il y a un dispositif qui s'appelle Orchestre à l'école qui permet à des jeunes en primaire de pratiquer de la musique, de l'apprendre même, de partir de zéro, de l'apprendre pendant 3 ans. Et je me demandais, eux, ils constatent des changements au niveau collectif, social. Est-ce qu'il y a un impact sur la pratique de la musique en ensemble, en tout cas, que ce soit en orchestre ou en groupe, sur les compétences sociales ensuite ?
Alors oui, il y a même une étude très rigolote, ça me fait penser à ça, sur les compétences sociales, où en fait ils ont fait, chez des tout-petits, encore plus petits, même des tout jeunes, je ne sais plus si c'était 1 ou 2 ans, il y avait des bébés où en fait ils les berçaient au rythme et en accord avec la musique, dans un porte-bébé, et puis un autre groupe où c'était des synchronisés, d'accord, comme ça. Et après, ils ont mis les enfants dans un contexte où il y a une dame qui étend son linge, voilà, qui, et puis qui fait tomber une serviette, elle fait exprès, hein. Et ils ont comptabilisé, ils ont regardé les enfants qui allaient spontanément aider ou ramasser le linge tombé, voilà. Et ils montrent une différence significative, c'est-à-dire que les bébés qui ont été balancés en rythme, eh ben, significativement vont avoir plus de comportements d'aide. Vous voyez, donc il y a d'autres études. Je suis moins spécialiste sur ces aspects psychosociaux, mais la réponse, oui, manifestement, ça renforce du lien. Il y a pas mal d'études aussi en neurosciences sur les chorales, donc avec la connexion, donc connexion au niveau de l'activité physiologique, mais aussi au niveau de l'activité cérébrale entre les choristes et en fonction aussi de la partie qui chante. Vous voyez, donc on voit il y a des nœuds qui se font, c'est assez impressionnant.
Bonjour, s'il vous plaît,
des fois... Je vous vois pas, j'arrive pas à repérer, à localiser le son. Ça y est, oui, je vous vois.
Je voudrais poser une question. Il y a certaines musiques qui me rendent euphorique, comme il y a certaines musiques qui me font pleurer, comme Julio Iglesias, il m'a fait pleurer quand j'étais petit, et puis aussi, j'écoute de la musique anima, et c'est de la musique aussi qui me fait pleurer, alors que c'est de la musique de sérénité et de... de l'esprit. Alors, vous allez comprendre pourquoi il y a la musique qui me met les larmes aux yeux.
Alors, déjà, il y a des certains paramètres de la musique. Hein. Quand on veut composer une musique triste, bon, alors, s'il y a des musiciens, ils vont hurler, mais pour faire très simple, on va plutôt utiliser un mode mineur, plutôt lent, enfin, voilà, il y a des paramètres qu'on va utiliser. Donc ça génère, du coup, des émotions différentes, selon ces paramètres de tempo et puis de mode. Et puis après, bon, ça peut vous faire pleurer parce que c'est une musique... alors déjà, il y a des paroles. Julio Iglesias, il y a des paroles, je pense. Oui, je connais pas bien, mais bon, voilà, peut-être que les paroles, l'objet, voilà, suscite...
Quand c'est des musiques comme Julio Iglesias, c'est des musiques... C'est des chansons d'amour, et c'est des chansons d'amour qui rendent tristes, et puis ça peut être aussi des chansons qui rendent tristes quand il s'agit de séparation.
Bah oui, mais l'amour, ça fait pleurer, hein. C'est triste, hein, des fois, hein. c'est pas toujours gay. Non, mais voilà, bah, c'est ça, bon, c'est surtout l'aspect... Et puis après, ça peut être des musiques aussi qui vont avoir un lien avec des souvenirs, voilà, qui peuvent activer des souvenirs.
Ouais, d'accord. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. On parle souvent de musique du langage, on évoque le fait que les différentes langues du monde ont une prosodie, enfin une mélodie différente, et aussi le fait que quand on parle à des tout-petits, on a tendance à chanter un peu. Est-ce que vous pouvez faire un lien avec les études que vous avez présentées ?
Alors, il y a donc les liens langage-musique, ça, il y a eu beaucoup de choses de réaliser. Et notamment des études qui témoignent qu'effectivement, sur le traitement de la prosodie dans le langage, en fait, c'est très lié au traitement des différences de contour, enfin de hauteur des notes. Et il y a eu plusieurs études réalisées par une équipe à Marseille chez des enfants dyslexiques, où en fait, ils montraient que le principe était le suivant. Ils faisaient écouter une phrase aux enfants, et puis le dernier mot, ou la dernière syllabe, je ne sais plus exactement, était rehaussée. D'accord ? Donc ça faisait un truc bizarre. Et puis, ça c'était la condition langage, et la condition musique, en fait, là c'était une mélodie, et c'était la dernière note qui était fausse, quoi. Et en fait, il montre que ce traitement, en fait, de la prosodie dans le langage et du contour ou des différences de hauteur dans la condition musique, elle donne lieu à une activité cérébrale identique. Et quand on est déficitaire par exemple, il y avait un groupe d'enfants dyslexiques, en fait, qui montraient qu'ils avaient du mal à faire cette tâche-là, et ceci dans les deux conditions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais... Ah ouais. Alors, redites-moi.
Bonjour, merci pour la présentation. Je me demandais, au niveau des études où il y a eu du coup un apprentissage en solfège, est-ce qu'ils ont pris en compte les profils des personnes? Parce que je me souviens, en solfège, souvent, il n'y avait pas tous les profils qui étaient présentés. Il y a une sorte de tri qui s'est dès le début, en fait.
Vous entendez quoi par profil?
Je pense aux profils sociaux, par exemple, il y avait quand même peu de personnes de milieux défavorisés, et souvent des gens avec des parents musiciens.
Alors ça, tous les effets observés, ce n'était pas forcément le cas sur les premières études, à chaque fois, en fait, on fait en sorte, justement, de contrôler la catégorie socio-professionnelle. Sur le développement des habiletés langagières, par exemple, on sait bien que ça, la catégorie socio-professionnelle, elle va énormément influencer. Donc on fait en sorte de contrôler justement cet aspect-là. Et maintenant, il y a des écoles, bon, notamment à Grenoble, où donc c'est ce qu'on appelle les classes musique aménagées. Et à Grenoble, ils ont fait en sorte justement que l'école qui accueille ces classes à horaire aménagé soit dans un milieu plutôt défavorisé.
On arrive au terme, donc on va prendre une à deux dernières questions.
Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais savoir si on peut établir un lien entre la musique et les fréquences de cette musique sur le cerveau.
Les fréquences, oui. Alors, donc la réponse est oui, c'est relié à ce que je disais. En fait, quand vous écoutez de la musique, l'activité cérébrale, elle se cale sur cette musique. Là, j'ai un étudiant qui a travaillé justement là-dessus. Enfin, donc c'était aussi sur les effets de la musique et des odeurs. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, quand on couplait une musique apaisante à une odeur agréable, en fait, l'effet que je vous ai montré, il disparaissait. Donc on a essayé de comprendre ce qui se passait. Et ce qu'il a pu montrer, en fait, dans son travail doctoral, c'est que finalement, quand j'écoute de la musique, je me synchronise sur le tempo de cette musique. Mais si je présente une odeur en même temps, du coup, ça désynchronise l'activité de cérébrale sur la musique. Donc la réponse est oui. Après, je ne sais pas ce que vous entendez par fréquence. Les registres graves, aigus, médiums, est-ce qu'ils ont des effets différenciés? C'est ça la question? Ah oui, il y a le tempo. Il y a l'intensité, il y a le rythme, il y a la métrique, il y a tous les paramètres qui vont... la musique, en fait, c'est pas que des différences de fréquence ou de hauteur. C'est du temporel, c'est...
On va prendre la dernière question pour vous laisser le mot de la fin juste après.
Les gens atteints de bégaiement, en général, quand ils se mettent à chantonner, ils ne bégayent plus.
Oui. Tout à fait.
Alors, il y a justement un lien, sans doute, avec les pathologies comme la maladie de Parkinson.
Oui, je connais moins, mais effectivement, on sait très bien que les gens qui bégaient, quand ils chantent, ils ne bégaient pas. Enfin, il n'y a pas de bégaiement en chantant. Alors oui, il doit y avoir un lien. Après, je connais moins...
Darry Cole avait fait une sorte de sketch là-dessus. Et Darry Cole était bègue.
Ah, d'accord. Ok. Bon, je n'ai pas la réponse, mais par contre, c'est intéressant. Je creuserai cette idée.
Je crois que nous aurions encore plein de questions à vous poser, mais voilà, le temps passe et on est arrivé au terme de cet échange. Peut-être je vais vous laisser le mot de la fin, un petit mot de conclusion, en tout cas un message à emporter après cette rencontre.
Alors, le message que je voudrais... Bon, là, je vous ai essentiellement présenté plutôt des effets bénéfiques, mais il y a aussi des effets négatifs potentiels de la musique. Et je voudrais rebondir par rapport à la question pertinente là sur la catégorie socio-professionnelle. Il y a quand même une question, quand on compare musiciens et non-musiciens, c'est pas forcément les études... maintenant, on travaille beaucoup sur du longitudinal. C'est-à-dire où on va tester, d'accord, l'effet de la pratique de la musique, mais en commençant par des enfants qui n'ont pas pratiqué, et puis on les étudie comme ça au cours du temps. Et une des questions qui se pose, c'est la question un peu de la poule et l'œuf, ce sera le mot de la fin. Peut-être que les personnes qui vont s'engager dans une pratique de la musique et qui vont la maintenir tout au long de leur vie, voire en faire leur métier, il y a peut-être un câblage, il y a quelque chose qui fait que... Parce que beaucoup vont commencer la musique et abandonner. On ne sait pas pourquoi, ça on se l'explique pas. on n'a pas d'explication à ça. Et bon, une possibilité, c'est qu'effectivement, à la naissance, on sait qu'on a un pré-câblage qui est génétique, qui est transmis par nos parents et les grands-parents, et qui fait que certaines personnes vont avoir plus d'aptitude, on va dire, à la pratique de la musique ou plus d'intérêt.
Ouais. Pardon. Merci infiniment. C'était le dernier entremis des séances de la saison, bien entendu, à partir d'octobre, une toute nouvelle saison vous attend. D'ici là, on a d'autres rendez-vous, et le prochain, c'est samedi pour une ouverture exceptionnelle à l'occasion de la Nuit des Musées, et donc on vous attendra entre 20h et minuit, ce samedi, avec des jeux et des défis assez particuliers. Donc vous êtes les bienvenus. Bon appétit, à bientôt, et merci beaucoup.